Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
In the rolling hills of eastern Pennsylvania, in this quiet community of simple farmers, untouched by time, a gruesome secret has been protected for generations. Into this world come three young women, drawn by the beauty of the land, unaware of the mystery it holds. How could they have known that what they would discover would call forth a deadly blessing?
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à une collection de nos amis d'Éléphant de Film. D'ailleurs, on profite pour remercier au passage Victor Lopez, qui donc est à l'œuvre pour sortir tous ces films bien sympathiques. En particulier, une collection qui concerne les maîtres de l'horreur, qu'on pourrait aussi appeler les maîtres du fantastique. Voilà, on vous en avait déjà parlé, on avait consacré une émission spéciale à la dernière salve de sortie de cette collection, durant laquelle on avait abordé, entre autres, d'Enfer mécanique, de l'île sanglante, enfin, des titres bien sympathiques. Et donc là, la collection se poursuit avec... On va les faire dans l'ordre chronologique. Quelques films qui, effectivement, ont une saveur un peu cultissime pour les vieux briscards que nous sommes quand on fréquentait encore ce qui s'appelait... Et oui, chers amis, nés au XXIe siècle, vous ne connaissez pas les vidéoclubs, par exemple, où on louait des VHS, des trucs avec des bandes qui, des fois, se prenaient dans la machine. Mais rassurez-vous, les supports Blu-ray et DVD, c'est quand même de bien meilleure qualité. On va pas se mentir, on n'est pas nostalgique à ce point-là. Pour causer sortie Blu-ray et DVD, je suis accompagné de mes fidèles acolytes. On va débuter par Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, quoi de plus normal pour un loup-garou, ainsi que pour le site culturopoint.com, et puis de temps en temps, il nous fait des infidélités sur d'autres radios avec son émission À l'écoute du cinéma. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien, et salut à toutes.
Il y a des films donc très sympas dans ce format, et donc des films qu'aujourd'hui, qui ont fait la gloire des vidéoclubs, que ressort nos amis d'Éléphant de Film. Il y a par exemple La Ferme de la Terreur de Wes Craven, qui est un film de 1981, qui est un film de Wes Craven méconnu. On va en parler. Il y a La Vallée de la Mort de Dick Richards, qui est un incunable de vidéoclub parce qu'il n'était pas sorti ensuite sur des supports numériques. Donc il est longtemps resté célèbre, plus pour son affiche d'ailleurs que pour autre chose. On va en parler dans l'émission. Il y a le fort sympathique qui m'avait profondément marqué quand j'étais gamin et que j'ai revu avec un plaisir. Voilà, en plus dans une version donc, du coup différente, puisque la fin est différente, puisque c'est le Director's Cut. C'est La Nuit des Sangsues de Fred Decker, film de 86. Un duo de films aussi, Le Beau-père 1 et 2, le premier de Joseph Ruben et le deuxième de Jeff Burr. Un film de 87 pour le premier, de 89 pour le second. Et donc, tout cela nous a enchantés. Nous avons dévoré ces films. Entre autres, Thomas, un film un peu intermédiaire dans la carrière de Wes Craven, qui vient au moment où il a fait un film porno, il a fait des films qui s'appellent The Fireworks Woman, qui est intéressant d'ailleurs parce que on retrouve des choses qu'on va retrouver dans la ferme de la terreur, sous pseudonyme d'Abbé Snake. Il a fait la dernière maison sur la gauche, il a fait aussi la dernière maison sur la gauche qui lui a valu aussi l'accusation d'être un peu un pornographe de l'horreur. Il a fait aussi La colline à des yeux, et puis il arrive à une période de sa carrière plus compliquée. Il n'a pas encore fait Les griffes de la nuit, qui fera en 84, et il essaye de monter son adaptation de la BD de Bernie Brinkston, d'Alan Moore aussi, enfin il y a plein de monde de ses succès d'études, La créature du marais. Et en attendant, de réussir à faire le montage financier pour faire ce qui s'avérera d'ailleurs être un fiasco, être un, entre guillemets, un nanar, hein, vraiment, de Wes Craven, La créature du marais, un film qui est loupé mais qui est très attachant, il va être amené donc à travailler sur ce film qui s'appelle Deadly Blessing en version originale. La ferme de la terreur, avec un casting assez intéressant, puisque on retrouve la Maren Jensen, jolie brune, qui disparaîtra très rapidement des écrans après avoir joué une petite dizaine de rôles parce qu'elle avait la mononucléose et qu'on savait pas trop comment soigner ça à l'époque. Une toute jeune Sharon Stone, c'est son deuxième rôle, je crois, toute juvénile, déjà fort charmante. Et puis il y a Suzanne Buckner aussi, qu'on ne reverra pas non plus, qui pourtant est une actrice très intéressante. Et puis ces actrices-là vont être confrontées à une communauté hittite, dirigée en particulier par Ernest Borgnin, qui est très impressionnant, qu'on fait pas des tonnes, et qui est un leader assez affreux en fait. Et Maren Jensen, donc, elle est mariée à un ancien de cette communauté, un des fils d'Ernest Borgnin. Alors la communauté hittite, c'est un peu comme les Amish, sauf qu'à côté, les Amish, c'est des enfants de cœur. Voilà. C'est-à-dire que chez les Hittites, on refuse tout progrès. Une cafetière est une machine du diable. Je vous raconte même pas ce qu'ils penseraient de nos Blu-ray, les gars. Alors là, je vous raconte pas. Alors là, c'est même pas la peine. Ils se déplacent en carriole parce que voiture, machine du diable. Enfin, tout est machine du diable, de toute façon. Les femmes, c'est le diable aussi. Tout est le diable. Voilà. Châtiment corporel, tout ça, ça rigole pas. Et puis, un jour, le mari donc de Maren Jensen meurt. Et c'était donc un ancien de la communauté hittite qui a renié la communauté. Hein. Mais ils sont quand même installés sur les terres très proches de cette communauté hittite, qui voudrait bien récupérer leur ferme d'ailleurs. Et il meurt accidentellement. Voilà, on va dire ça comme ça. J'en dirai pas plus. Mais disons qu'il y a un Michael Berryman qui traîne dans les parages. Quand il y a un Michael Berryman, c'est jamais vraiment très très clair, quoi. Voilà, avec sa tronche touchée d'acromégalie. Le pauvre Michael Berryman, acteur quand même terrifiant, quoi, on va le dire. Rien qu'avec sa tête, le pauvre, il n'y peut rien, mais qu'on avait vu dans l'un de ses rôles les plus marquants, dans La colline à des yeux, d'ailleurs, avec ce grand front démesuré, là, voilà, qui est d'ailleurs un acteur fort sympathique, et paraît-il un homme fort sympathique et très drôle dans la vie. Et là, suite à la mort de ce mari, il y a l'enterrement, et ses meilleures copines débarquent pour lui remonter le moral, et il va se passer plein d'événements, un peu étranges, et ça va donner un film également un peu étrange, et qui porte en germe pas mal de choses du cinéma à venir de Craven.
Oui, il y a des scènes qu'on retrouvera d'ailleurs dans certains de ses autres films, et je n'en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hein, je vous laisse découvrir un peu les petites obsessions d'érotomane de Wes Craven. Hein. C'est un petit slasher très sympathique, bien foutu, efficace, avec James Horner qui parodie un petit peu Jerry Goldsmith, hein, celui de La Malédiction, avec une musique avec des chœurs, hein, forcément, qui dit communauté religieuse intégriste, et ben on fout une musique avec des chœurs. Hein. Oui, c'est un petit Wes Craven que j'ai revu plusieurs fois à la hausse. La première fois, je n'avais pas aimé, mais ça, c'est à cause d'une fin que je pense a été imposée par les producteurs, qui est un peu hors sujet, qui dénote complètement avec le reste du film et qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein.
Mais avant cette fin-là, il y a une autre fin où là, le film, il part complètement, si j'ose dire, en couille. Ça devient un peu n'importe nawak, mais bon, ça reste sympa. Ça reste... Enfin, moi, je prends plaisir à voir ce film. Mais y a, la fin, ça part vraiment complètement un peu dans le nawak, dans une partie un peu de massacre, où c'est relativement violent, mais c'est, ça, je trouve que c'est un film qui reste fun, quoi. Et c'est correctement emballé par Wes Craven, qui filme... Moi, je pense que c'est un de ses films les plus sympathiques, quand même. Hein.
Alors, effectivement, Thomas, il y a tout ce premier twist. On va dire premier twist, c'est-à-dire qu'il y a deux twists. Voilà, il y a une deuxième fin qui vise à faire entrer plus le film dans la catégorie fantastique. Hein. Mais tout ce premier twist... qui est, alors parce que là je trouve que La Ferme de la Terreur c'est un slasher sans en être vraiment un, voilà, il y a des éléments de slasher, mais il y a des éléments de plein de choses, hein. Il y a même des éléments, enfin bon, le film est assez étrange, il brasse plein de choses, mais ce premier twist moi, m'avait beaucoup marqué la première fois que j'ai vu le film. D'ailleurs j'avais complètement oublié le second twist, je l'avais gommé de ma mémoire, qui est en fait du coup un twist un peu inutile, qui vise un peu à faire basculer le truc dans une sorte de préchi-précha fantastique, pas terrible. Mais bon, effectivement, je pense que comme tu le dis, c'est une fin imposée par les producteurs. Hein. Je crois même que Wes Craven en avait déjà parlé. Néanmoins, le film comporte son lot de séquences très efficaces. Alors si vous êtes arachnophobe, faut pas regarder le film parce qu'il y a un paquet d'araignées bien dégueulasses.
Ouais, il y a surtout une séquence qui est bien crado. Hein.
Ouais, non, mais c'est... En fait, il manifeste déjà, alors toi tu dis d'érotomane, certainement un petit peu, mais déjà aussi une certaine obsession pour la psychanalyse. Mmh. C'est-à-dire que le film est très psychanalytique, jusque d'ailleurs dans ce premier twist là, hein, qui est aussi un twist assez freudien quelque part. Voilà. Et de toute façon, Freud obsède Wes Craven. Hein, tout ce qui est le délire autour du serpent, tout ça, c'est même des choses qu'on retrouvait dans son porno dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. C'est quelque chose qui l'obsède parce qu'en fait, lui, il a reçu une éducation religieuse assez rigoriste, et en fait il règle un peu ses comptes dans le film là, il se fait un peu plaisir, parce que c'est vrai que la communauté hittite qui est décrite, elle en prend plein la gueule. Dès le générique d'ailleurs, c'est super bien foutu le générique, parce que c'est quand même un metteur en scène doué, hein, Wes Craven, hein. Il est capable du pire comme du meilleur, mais il sait ce qu'il fait, quoi. Et là, il y a quand même le générique est super, parce que c'est des photos d'une communauté hittite qui travaille la terre, on les voit bosser, et c'est des photos d'un autre temps, elles sont en noir et blanc. Puis tout à coup, l'image devient en couleur, et en fait, on voit qu'ils n'ont absolument pas progressé, ils sont restés figés dans le passé, sauf qu'aujourd'hui, ils vivent comme sur ces photos en noir et blanc. C'est plutôt bien amené, ça, je trouve ça plutôt intelligent, et le film regorge de belles séquences. Je pense aussi à un moment, il y a un des frères de ce mari défunt qui est emmené par une des copines de Marine Jensen pour faire voilà un petit 5 à 7 dans la voiture, quoi, voilà. Et là, il y a une scène vraiment flippante où ils se font agresser, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est vachement bien mis en scène, c'est vraiment bien amené, et il y a une super idée à base d'une traînée d'essence. C'est tout con. Mais c'est vraiment une super idée de mise en scène. Et on se dit quand même que Craven, il est vachement doué. Et on sent que ce qui l'intéresse, c'est les séquences de frousse. Et qu'entre deux, il s'emmerde un peu. Il s'autocite d'ailleurs. À un moment, ils vont au cinéma. Il y a le cinéma, il projette Summer of Fear, qui est un très mauvais Wes Craven avec Linda Blair, voilà, qui est vraiment pas terrible comme film. Et c'est vraiment l'époque où il galère, hein, quand même, Wes Craven. Hein. Avant, avant... Freddy, les griffes de la nuit, il galère. Hein. Sa carrière, quand même, ne connaît pas un gros succès. C'est vraiment les griffes de la nuit qui vont lui apporter une certaine notoriété. Et le film a aussi, ce qui me plaît bien, un petit côté giallo. Parce que le meurtrier utilise souvent l'arme blanche et a des gants de cuir noir. Donc ça donne un petit côté giallo qui, ma foi, ne me déplaît pas. Et puis les filles sont sexy. Et Wes Craven n'hésite pas à les déshabiller. Enfin, il y a tous les éléments de la série B d'horreur du film du samedi soir.
On l'apprend dans les bonus, les hittites n'existent pas, en fait. Hein. Il l'a imaginé pour le film. Enfin, il s'inspire des Amish, quoi. Ni plus ni moins. Il en fait un truc encore plus intégriste, quoi.
C'est des Amish en pire. Mmh. Et il le dit, je crois, même Wes Craven, il le dit. C'est une version... parce que, bon, c'est une version vraiment plus radicale, quoi, des Amish.
Things are very quiet in Death Valley these days. In fact, you can go for miles without spotting a corpse. However, if you're patient, something or somebody is bound to turn up. Take this loving couple, for instance. I wouldn't get too fond of them if I were you, because they won't be around very long.
No. Please, no.
A pity. They seemed so nice. This is Billy. He has a big problem for such a little person. He can identify the killer. And the killer can identify Billy. Now this chap is the local sheriff. The sheriff is wondering who is behind that door. Unfortunately, he is. Death Valley is full of little surprises. Death Valley.
Vous écoutez Culture Prohibée.
As a last resort.
Autre film un peu moins réussi quand même, là édité dans la collection, je pense qu'on va aller plus vite sur ce film, c'est La Vallée de la Mort, film de Dick Richards. Alors, film étonnant parce que signé d'un réalisateur dont le début de carrière est très très intéressant. Je pense à un western qui s'appelle La poussière, la sueur et la poudre, et puis à un film noir avec Mitchum et Rampling qui s'appelle Adieu ma jolie. Deux films très intéressants, et puis il fait cette Vallée de la Mort. Cette Vallée de la Mort qui raconte l'histoire de Billy, un jeune garçon, en fait. Le film est vraiment montré à travers les yeux de Billy, quoi, dont les parents se séparent, et on découvre un peu pourquoi, c'est-à-dire que son père est enseignant à Princeton, et sa mère vient de l'Amérique profonde, donc de la Vallée de la Mort, hein, de ce coin-là. Et elle a épousé cet homme, elle croyait avoir épousé un autre homme. Enfin, en fait, le père l'explique au début, il dit « Bon, voilà, ta mère n'est plus la femme dont j'étais amoureuse, je ne suis plus l'homme qu'elle a aimé, donc voilà, on se sépare, tout ça. » Et le gamin, c'est un urbain, il est habitué à une ville... on les voit se promener au début à New York, hein, ils font les musées, ils font tout ça. On sent que c'est un gamin très brillant intellectuellement à l'école, tout ça. Et il veut absolument pas aller en vacances avec sa mère chez les cutéreux avec le copain de sa mère, qui est joué par Paul Lemat. D'ailleurs, Paul Lemat, qui est... Alors la mère, c'est Christine Hicks, qui est une actrice qui a connu une petite carrière intéressante, mais Paul Lemat, qui est vraiment... qui est vraiment pas un bon acteur, quoi, qui est très falot, quoi. Enfin, en tout cas, dans ce rôle-là, il n'est pas terrible, quoi. Et il se retrouve avec cet homme qui l'emmène donc à la Vallée de la Mort. La Vallée de la Mort qui est un peu une sorte de... Nous, on a la mer de sable en France, à Hermenonville, où on voit les cow-boys qui se tirent dessus et tout. Alors, pour les ricains, on va dire Monde Ouest, hein, par exemple, qui est vraiment un film qui montrait un peu tout ça. En fait, le gamin va trouver un pendentif dans un camping-car. Et c'est un camping-car où a eu lieu un triple meurtre. Et du coup, l'auteur du meurtre va poursuivre le gamin pendant tout le film. Et alors, on devine très vite, hein, donc je dévoile rien, on devine très vite que c'est Stephen McCarthy. Stephen McCarthy, très bon acteur, hein, qu'on a pu voir dans un film relativement culte ces dernières années, Pontypool, hein, dont on avait parlé dans l'émission, qui est un film à la fois pour les gens qui aiment les films de zombies et qui aiment la radio. Donc voilà, c'est un film de zombies qui se passe dans une station de radio. Et qui est très bon par contre, en méchant, il cabotine pas, il est vraiment flippant, il est vraiment très intéressant. C'est vraiment un film pour moi qui hésite entre les genres. Et pourtant, ça démarre bien. Hein. Tout le début du film est vachement bien. Même le premier triple meurtre, en plus il y a une jolie rouquine, Gina Christian, qui n'a pas fait beaucoup de films, qui se fait assassiner après s'être fait étonnamment malaxer les seins par son amant, qui ressemble à un peu à un bovin. Il a un regard bovin d'Américain perdu, voilà, on a l'impression qu'il ne sait pas quoi faire d'une aussi belle femme d'ailleurs. Et là ils se font tuer, et moi j'aime bien le début du film, tout le début du film. Et après, le gamin rentre dans ce camping-car. Par contre, c'est le début du grand porte-nawak au niveau du scénario. Hein, parce que le beau-père, la mère, emmène le gamin. C'est la vallée de la mort, donc c'est un désert hein, quand même. Hein. Ils disent « Ouais, t'as qu'à aller te promener. » Oh, le gamin, il se barre super loin. Il va jusqu'à ce camping-car. Voilà, il abandonne. Et c'est pas la... Tout le film, les protagonistes prennent des décisions absolument incongrues. C'est très étrange, ça, dans le film. Par contre, je trouve que tout le début du film est assez sympa, les 10-15 premières minutes, parce que ce gamin rentre dans le camping-car. Nous, on sait qu'il y a eu le triple meurtre. Et il y a plusieurs portes, en fait, dans le camping-car. Et il avance. Et c'est la fameuse théorie d'Hitchcock. Hein. Quand le spectateur est au courant de ce qu'il y a, le suspense est plus grand. On se dit même que le tueur est peut-être toujours dans le camping-car. Et il avance, il ouvre les portes au fur et à mesure, mais il ne va pas jusqu'à la porte, évidemment, où il y a peut-être le meurtrier, peut-être le... Voilà. Par contre, il vole un petit médaillon en forme de grenouille, qui est un médaillon qui pourrait permettre d'identifier le meurtrier. Et le film démarre comme ça, et après c'est la traque par le meurtrier du gamin, avec un twist final qu'on sent bien venir avant quand même.
Je trouve que le film est assez poussif et assez convenu, en effet, les scènes de suspense ne sont pas super géniales. Alors il faut savoir qu'à la direction de la photographie, c'est Steven Ashbourum, qui a notamment travaillé sur Vientiti de Sidney G. Fury. Alors... attiré par ça, moi je regarde le film, je me dis le film va visuellement être beau, etc. Mais non, je trouve que les cadres sont assez communs, je trouve que la mise en scène elle est pas inspirée du tout, et je ne retrouve pas le directeur de la photographie de Sidney G. Fury, et je crois même qu'il a travaillé aussi, je me demande si c'est pas lui qui a travaillé aussi sur je crois que c'est lui qui a fait la photo de Rusty James aussi. Quelle ne fut pas ma déception quand j'ai découvert qu'en fait la mise en scène n'est pas du tout inspirée, puis que je ne retrouve pas non plus enfin c'était avant qu'il travaille pour Sidney G. Fury et Coppola, hein. Bon, Coppola j'ai un doute, hein, mais je crois que c'est bien lui qui a fait Rusty James, donc de ne pas retrouver le directeur de la photo de ces films-là. Donc, je trouve que c'est un film assez commun, assez ennuyeux, avec une intrigue pas très bien écrite non plus, je trouve.
Mmh. Bon, vous l'avez compris, c'est pas notre film préféré de cette salve. Par contre, rassurez-vous, c'est le seul film moyen de cette salve. Hein, The night of the fall is finally here for Chris, Cindy and JC. It's going to be the best night of their lives. But tonight is also the night of the creeps. From a world unknown comes a nightmare unimagined. Night of the creeps, what's crying me? écoutez Culture Prohibée. Alors là, on va aller dans le dur un petit peu avec mon ami Damien, parce qu'on va parler de Night of the Creeps, la nuit des sensus. Alors là, il est retitré Extra Sensus, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave, ça lui convient bien, Extra Sensus, voilà. Pourtant, on voit bien dans le générique, c'est Night of the Creeps, donc la nuit des sensus. Hein, bon. Donc c'est un film de Fred Decker. Alors Fred Decker, c'est un réalisateur qui a connu une carrière éclair. Il a surtout fait 3 longs métrages. Donc ce premier film, c'est son premier film, c'est un super premier film franchement, après il va faire Monster Squad qui est pas mal du tout, et puis il va se retrouver sur le naufrage de Robocop 3 qui va être un film massacré par le studio et dont la sortie va être aussi massacrée, enfin tout va être massacré, et qui donc va être, ça va être la cata quoi, la catastrophe, ce Robocop 3, et ça va être une grande déception. Alors Frank Miller, qui a travaillé sur les Robocop, fera sortir après des scénarios, dont celui qu'il estimait être celui prévu pour Robocop 3. Enfin bon, en tout cas, ça va être un naufrage pour Fred Decker. Et il s'en remettra jamais vraiment. Et c'est bête, parce que franchement, son premier film, là, il est fort sympathique, qui est sorti en 86 aux États-Unis, en 87 en France, au cinéma. La musique, c'est Barry DeVorzon. Alors Barry DeVorzon, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais Barry DeVorzon, c'est le musicien d'un film ultra, 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 ultra culte. Tout simplement, c'est le musicien qui a signé la musique des Warriors, des Guerriers de la Nuit, de Walter Hill. Voilà, et donc un film énorme, hein, dont on a déjà parlé dans l'émission. Vous savez que c'est un de mes films préférés, un de mes films de chevet. Voilà, un film de chevet, c'est un film que je regarde au moins une fois par an. Le problème, c'est que j'en ai beaucoup. Voilà, mais en tout cas, très bonne musique d'ailleurs pour ce film. Et ce film, en plus, il a un casting assez sympathique, puisqu'on on peut y trouver, par exemple, Tom Atkins, qui est le seul acteur un petit peu connu, dont Sharon Stone disait que c'est l'acteur qui embrassait le mieux, voilà, dans tous les acteurs qu'elle avait rencontrés durant toute sa carrière, quand même une carrière assez conséquente, Sharon Stone, et Tom Atkins qui fait là un détective qui s'appelle Ray Cameron. Alors tous les personnages ont des noms de cinéastes cultes attachés au fantastique. On aura le détective Landis, il y a le sergent Rémy, il y a Chris Romero, il y a J.C. Hooper qui sont un peu les héros. Cynthia Cronenberg qui est clairement l'héroïne, voilà, du film, qui est jouée par Jill Whitlow, d'ailleurs, dont ce sera un peu le seul titre de gloire dans sa carrière. Elle est très belle, elle est très jolie d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, elle n'a pas vieilli d'un pouce, elle est présente dans les bonus, elle est toujours aussi jolie. On dirait que le temps n'a pas d'emprise sur elle. Là, l'histoire du film est simple. Je vais revenir un peu en arrière, parce que l'histoire du film, le début du film, en 5 minutes, il se passe plein de trucs. Voilà, on est en 59, il y a un vaisseau spatial, il y a des extraterrestres un peu bizarres, qui sont super bien faits d'ailleurs, la facture visuelle du film est super propre, quoi. C'est vachement bien, les effets spéciaux sont super bien dans ce film, et ils n'ont pas pris une ride, c'est assez sympathique, des effets spéciaux organiques ça peut être sympa, et des extraterrestres, deux extraterrestres dans un vaisseau spatial, qui au début on croit qu'on va avoir donc un film de SF quoi, qui tente d'empêcher un troisième extraterrestre de visiblement balancer dans l'espace le résultat d'une expérience dont ils ne veulent pas qu'elle soit connue du reste de l'univers. Alors c'est assez drôle parce que il y a chaque détail qui est pensé. On voit les extraterrestres qui ont des tronches vraiment étranges, voilà, et qui poursuivent l'autre et puis qui discutent dans leur langue. Et donc c'est sous-titré, mais du coup dans leur langue, et du coup il y a un resous-titrage pour les humains. Voilà, donc c'est assez marrant. Et puis en fin de compte, il réussit à balancer son truc qui atterrit dans la forêt. Au même moment, le film tout à coup filme en noir et blanc, bascule dans le noir et blanc, donc on est en 59. Et au même moment, on retrouve un couple dans une voiture avec une jeune fille. Visiblement, on découvre qu'elle avait un petit copain flic, mais qu'elle n'est plus avec lui, qu'elle choisit plutôt un autre petit copain. Ce flic qui est le même, en fait, qui est Tom Atkins plus tard, qui est traumatisé par ce qui s'est passé cette nuit-là. Et là, elle est avec son nouveau petit copain dans la voiture. Juste avant, le flic passe lui dire « Tu feras gaffe parce qu'il y a un mec qui s'est évadé de l'asile. C'est un tueur à la hache, en gros. » Et il découpe tout le monde en morceaux. Donc, « Tu feras gaffe. » Bon. À ce moment-là, les deux amoureux regardent l'étoile. Ils parlent d'étoiles filantes, enfin des discussions d'amoureux totalement niaises. Et ils disent « Quelle étoile tu choisis ?» Et là, il dit « Je choisis celle-là. » Et on voit un énorme météore arriver, s'écraser. Voilà, c'est celle-là la plus convaincante. Le garçon va voir ce qu'il y a dans ce météore. il finira bouffé par des sangsues, hein, voilà. Et parce que les sangsues vous transforment en une sorte de zombie, en fait. Vous bouffez votre cerveau, puis après, vous devenez une sorte de zombie. Et puis, comment dire, la jeune fille est découpée à la hache par le tueur qui arrive dans les parages. Alors là, il s'est passé que 5 minutes de film. Hein, voilà. Tout à coup, on se retrouve, de nos jours, 27 ans plus tard, on est en 86. Et là, il y a le jeune Chris Romero, donc, qui est inconsolable parce qu'il a eu un chagrin d'amour, mais qui est quand même bien amoureux de la belle Cynthia Cronenberg. Voilà. Son meilleur ami, c'est JC. JC qui est un garçon qui a une maladie, on ne sait pas si c'est la sclérose en plaques, enfin, on ne s'est jamais vraiment dit, qui se déplace avec des béquilles. Et donc, qu'essaye JC Hooper, hein, évidemment, comme Toby Hooper, qui essaye de remonter un peu le moral de son copain. Et puis, petit à petit, cette Cynthia Cronenberg, elle se rapproche de Chris. Et elle s'éloigne de son petit copain, qui est une sorte de mâle alpha qui dirige une confrérie d'idiots patentés, machos, enfin bon, voilà, bien caricatural. On est plein dans le teen movie, là. Hein. Et évidemment, l'idée de génie, alors plutôt que d'aller parler à la jeune femme, elle aussi dirige une confrérie parce que c'est la plus belle de l'école, machin, tout ça, enfin bref. Et l'idée de génie qu'a Chris, c'est non pas d'aller tout simplement parler à la jeune femme pour lui dire « Écoute, est-ce qu'on pourrait aller boire un verre ensemble ?» Non, l'idée de génie qu'il a, c'est de se faire engager dans la confrérie des mâles alpha, idiots et ridicules, là, dirigée par le petit copain de cette jeune fille. Alors tout de suite, on a le duo hein, qui fonctionne bien, puisque JC... malgré son handicap, est plutôt charmant, hableur, il a la tchatche, il est assez drôle, il est assez marrant. Et l'autre est plus coinsos, plus la figure de l'intello et tout. Ah, bien sûr, le duo aux antipodes, c'est une figure classique de la comédie, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien parce que le film est sincère. C'est ça qui est chouette avec ce film. Et puis, alors, pour rejoindre cette communauté bêta, là, bien sûr, on leur dit, vous allez me sortir un cadavre de la morgue, quoi. Puis vous allez le balancer au pied on est à 10 minutes de film, hein, je vous préviens. Il se passe plein de trucs, en fait, en très peu de temps. Vous allez balancer le cadavre au pied de la maison de l'autre communauté, de notre communauté ennemie, quoi. Voilà, de l'autre bande qu'on déteste. Voilà, vous savez bien, les filles, c'est les sororités, les garçons, eux, ont leur communauté aussi. Enfin, tout le monde s'affronte. Et la fraternité masculine, là, va être mise à mal. Alors, les deux loustiques, ils se dirigent vers les labos de l'université, sauf qu'on est sur les lieux où c'est déroulé. Donc 27 ans plus tôt, cette arrivée d'extraterrestres, de sangsues extraterrestres, ont investi le corps de ce jeune homme. Et ils découvrent le corps de ce jeune homme cryogénisé, en fait, dans les labos, parce qu'ils arrivent à... C'est assez cocasse, en fait, on voit un scientifique qui essaye de rentrer parce que c'est une pièce sous contrôle, hein, voilà, avec un code pour taper pour rentrer et tout ça. Et il se rappelle plus du code. Et les deux gamins arrivent devant la porte. Et puis il y en a un qui dit, bon, je sais pas, on va essayer. Il tape 0, 1, 2, 3, 4. Et ça, la porte s'ouvre. Et donc ils rentrent tous les deux. Et l'idée de génie, c'est qu'ils veulent donc délivrer ce cadavre. Sauf qu'à cause d'eux, les sangsues vont de nouveau se répandre. Et là, on tombe dans un film à la fois un teen movie, à la fois un film aux effets spéciaux super, parce que c'est Nicotero, la bande Howard Berger, tout ça, enfin, c'est super d'effets spéciaux. Et on est donc dans le film de zombies, avec des ados, ça défouraille, il y a du lance-flammes, il y a un flic sorti tout droit des films noirs d'autrefois, qui a d'ailleurs une réplique célèbre hein, dans le film... qui en gros veut dire en français « étonne-moi ». Enfin, il dit ça à tous ses interlocuteurs. Dans les bonus, il raconte que la réplique est tellement célèbre qu'il y a une dame qui a appelé son entreprise « étonne-moi » du coup, et qui est allée le rencontrer, qui lui a demandé un autographe un jour pendant la projection du film, enfin après la projection du film, puisque c'est un film qui est devenu culte. Et ça donne quand même un film. Alors moi, c'est un film de mon adolescence, donc forcément, moi j'ai adoré. Vous imaginez bien, en 87, moi je suis né en 74, j'avais l'âge des personnages du film, enfin quasiment. Donc ça m'a un film qui m'avait laissé un super souvenir. Et là en plus, ce qui est super, c'est, je vous dis pas la fin, il y a une nouvelle fin, et la nouvelle fin est quand même vachement mieux que l'ancienne, voilà, qui était une fin un peu plus sombre l'ancienne, mais enfin, la fin est sombre aussi, là, mais elle est très différente, en tout cas. Et je vous en dis pas plus. Yeah, I'll see you tomorrow. Come on, I'm burning it down with spice.
Bible. Walk to Sherman, Cyril, me, hook, seed. These killers burning Bibles. Look in my eyes, cause it's vital. Better, it's visible. I couldn't kiss. I went to ice walk, ain't invisible. Look at my trunk, it's covered with jelly. 20 shots in the Chevy. I smeared a matzo with the blood of a Betty. Dipping in soul, Megan Fox clones on my wall. It's 2010, we blowing up spots like Lemmy's mole. In Jennifer's body next to Nicole. I should blood and thunder for hoes. Viggo Mortensen vote, I change clothes. I pledge allegiance. Steady when I spit the excrement. Rocking the ski mask in the back of Victoria's Secret. It's the cool life, I live it and breathe it. Go ask Weezy how I heard the bitch steal from the needy. My pop sneezy taught me the ropes on how to cook coke. Then move gold, first in the month. Grab your guns and go for broke.
Yeah, so bang them hammers on some Mario Luigi. Shit left brains and back seats for Tarantino squeegee. Did I train this dead bitch? But her head just hasn't been the same since I bought her off of Craigslist. Threw her in a closet, loaded up with ketamine. Now she just hangs out like David Carradine. This place is a mess, it truly was embarrassing. Detective said it reeked of promethazine and kerosene. Women covered in blood, something like a carry scene. I think I got away, but I don't know what the camera's seen. So the day that they try to indict me, from eyewitnesses on up to the judge, I'm killing everything.
Écoutez Culture Prohibée.
Clairement, quand on arrive devant le film, les 5 premières minutes sont vraiment époustouflantes parce qu'on se retrouve pris dans une machine qui va 100 à l'heure sans rien nous dire et on essaye de comprendre, mais le film est en mode « Non, t'inquiète pas, je raconte, t'auras les explications plus tard. » Et on se retrouve dans un patchwork pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans un vaisseau spatial, pourquoi est-ce que l'image passe en noir et blanc, pourquoi on suit ce couple des années plus tard. C'est vraiment quelque chose de très dynamique, vraiment fun. Au final on a tout qui se regroupe, ce qui est assez rassurant au bout d'un moment vu qu'on se dit finalement certes le film va ultra vite mais là on comprend pourquoi ces éléments ont été posés et c'est vraiment un truc particulier, c'est un OCNI, un objet cinématographique non identifié, ça va à 100 à l'heure, c'est construit de plein de trucs, l'histoire avec les sangsues de l'espace, le tueur à la hache, non mais... je l'ai vu récemment et j'en revenais pas. J'arrivais pas à réussir à poser quelque chose dessus. C'était vraiment un film vivant au final. Et aujourd'hui, je trouve que oui, il fonctionne encore et que c'est vraiment le truc que tu peux regarder tard le soir avec des amis, te marrer vraiment devant, d'abord être perdu, ensuite te marrer devant et admirer tout le travail qui est fait. Les effets spéciaux sont vraiment réussis. Les aliens, sont tellement bien faits qu'on se dit au début du film que ça va forcément être basé là-dessus, qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit un film sur les aliens, je m'attendais à ce que ce soit un teen movie, je vois les aliens au début, je fais ok, j'ai rien compris. Quand ça passe en noir et blanc, je me dis ok, c'est plus un peu comme les films d'exploitation d'avant, donc on va avoir une invasion de sensu, et quand ça débarque dans le présent, on est en mode, en fait, j'ai rien bité au film depuis 5 minutes. Et c'est vraiment un sentiment particulier quand on se retrouve pour la première fois devant ce film, et un sentiment vraiment très agréable. Et c'est un film, comme tu le disais, qui est culte parce que son scénario du début m'a rappelé une série d'il y a quelques années qui s'appelait Brains, qui a raconté l'histoire justement de parasites tombés de l'espace qui en fait mangeaient les cerveaux et rendaient les gens presque zombies. Très agressifs, pas totalement zombies vu qu'ils continuaient à avoir des réflexions, mais ça les rendait extrêmes dans leur dire. Et oui, c'est un film qu'il faut voir. Non, faut voir. Vraiment, c'est vraiment un film qu'il faut avoir vu.
C'est le prototype même de la série B, sincère et réussie. Il y a plein de références, mais ça tombe pas dans l'ironie méta qu'on a dans plein de films aujourd'hui. Ça se moque pas du genre. Le mec qui fait ça, il aime le genre. On sent qu'il a adoré les films de Jack Arnold. On sent qu'il a. Il y a plein de références, mais c'est super bien digéré. Et en plus, par instant, pas tout le temps, mais par instant, il y a de la mise en scène. Alors évidemment, il le repique à d'autres. Mais il y a des scènes quand même, il y a un moment le flic qui tue un zombie dans un plan de cinéma, un panoramique vachement chouette. Il utilise le trans-traveling aussi qui repique à Hitchcock. Enfin, c'est un cinéphile, il se fait plaisir et c'est un chouette premier film et pas que d'ailleurs, c'est un chouette film tout court. C'est un film pour moi qui synthétise bien l'état d'esprit un peu débridé du cinéma d'exploitation des années 80, quoi.
Bah oui, c'est ce que j'ai ressenti à la fin du film. J'avais vraiment l'impression que c'était finalement un film hommage avec plein de trucs dedans, mais que Loretta a vraiment un talent pour finalement nous le faire digérer assez facilement. On est en mode d'accord, c'est impeccable.
Morrison isn't his real name.
What is it?
God knows, we don't. His personal history was falsified, his prints were untraceable. It was possible Morrison had done it before.
You can call me sentimental, I don't care. I have beautiful friends, I have a wonderful new family. So what do you think? Can we give this little guy a home?
Sure.
That's my girl.
He's a wonderful man, and he wants to care for us. I don't know, there's just something about him.
Oh, that guy in Bellevue that killed his whole family, cut him up with knives. Maybe they disappointed him. All we need is a murderer out here.
You're a good boy, he's a good boy. Isn't he a good boy? Your daddy's little angel.
Sure. Hi, honey.
Just some crazy creep. Don't you talk to your father that way. He's not my father. How can you even bear to let him touch you? Stop it!
We have to talk, honey.
About what?
About what is happening to our family.
I'm taking care of it.
He scares me, Dr. Pondere.
Who am I here?
Help me! Help!
You're a very bad girl.
Stepfather. Autre film, enfin autre série de films, on va terminer là-dessus. C'est la série des beaux-pères, The Stepfather, qui est une série de films assez intéressante pour plein de sujets. On va en parler tout de suite. Alors il y a eu un beau-père 3 aussi qui était plutôt téléfilmesque, où il n'y a plus Terry O'Quinn, l'acteur qui fait le beau-père dans les deux films là. Terry O'Quinn, qui est super bien d'ailleurs, qui est un acteur dont on se dit merde, il aurait pu avoir une bien meilleure carrière, parce que jouer un psychopathe sans cabotiner, c'est pas donné à tout le monde, en restant très cool, très zen, voilà, il le porte très bien. Comment dire, il y aura un remake aussi, un remake beaucoup plus récent, avec Amber Heard. Du coup un peu plus sexualisé, un peu plus qui perd un peu, parce que là il y a un truc avec cette jeune ado qui est innocente, qui a un côté innocent. Je dis pas qu'Amber Heard n'est pas innocente, mais bon, c'est à dire que dans le film elle passe son temps à se balader en petite tenue et tout, ça gâche un peu le remake, qui est efficace mais qui est sans intérêt, comme beaucoup de remakes, c'est-à-dire on manque d'imagination, on fait des remakes. Donc on va revenir à l'original, qui est un film de 87, de Joseph Ruben. Alors Joseph Ruben, c'est pas un grand réalisateur, mais c'est un réalisateur intéressant. Il a fait par exemple Dreamscape en 84, qui est un film intéressant. Et puis il a surtout fait toute une série de films, qui est une série de films autour des femmes maltraitées, des femmes... Il y a un film qui est assez connu, Les Nuits avec mon ennemi, je crois, avec Julia Roberts et avec Patrick Bergen en homme qui maltraite sa femme. Enfin, c'est quelque chose qu'il travaille, le réalisateur. C'est un thème qui reviendra dans son cinéma. L'histoire, il faut savoir que ça s'inspire d'une histoire vraie, quoi. C'est ça qui est le plus étonnant. C'est-à-dire que dans les années 70, John List a tué sa femme, ses enfants et sa mère. Et puis, il les a laissés dans la maison. Et puis, il est parti, il a changé d'identité, il a changé de métier. Et puis... il est devenu quelqu'un d'autre et il a eu une autre famille. Voilà. Donc, c'est un truc terrible. Et de toute façon, on le sait dès le début, puisque dès le début, on voit Jerry Blake, donc, qui tue toute sa famille. Les enfants, machin. Enfin, on ne le voit pas le tuer, on le voit se transformer, parce qu'il est un peu transformiste. C'est-à-dire qu'il se met des fossiles, il se met des lentilles sur les yeux, il change un peu ses coiffures... parce qu'en fait, il n'a plus beaucoup de cheveux. D'ailleurs, en vrai, Terry O'Quinn est plutôt chauve, d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser à Thomas Roland. Du coup, ça m'inquiète. Aurait-il massacré des familles entières ?
C'est pas une tare d'être chauve.
Et en fait, voilà, Jerry Blake décide de partir et ils fondent une nouvelle famille, avec donc une mère seule et une adolescente qui, elle, va tout de suite avoir des doutes sur lui. Lui change de métier, se met à vendre des maisons. Et puis tout va se dérégler. Voilà, tout va se dérégler parce que la famille idéale qu'il veut construire, ben, ça ne fonctionne pas. Et dès lors que ça se dérègle, eh ben, il devient méchant puis il tue tout le monde. C'est son problème à Jerry Blake, c'est qu'il ne sait pas gérer. Il ne sait pas gérer le stress. Voilà. Il veut avoir une famille idéale. Et là où c'est intéressant, là où c'est vachement intéressant, alors en dehors, mais je vais te laisser en parler, hein, en dehors de la mise en scène, parce que la mise en scène de Ruben, elle est vachement bien. Et j'étais très étonné, c'est super bien mise en scène, c'est très efficace. Il y a juste la musique de Patrick Moraz qui est vraiment mauvaise, quoi. Et il ne l'utilise pas beaucoup, mais en plus, il ferait mieux de ne pas l'utiliser, parce que quand elle est là, c'est affreux, quoi. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, c'est l'identité de ces deux scénaristes. Le film est scénarisé par deux. Ça part d'un travail commun de Brian Garfield. Alors, Brian Garfield, c'est l'homme derrière Un justicier dans la ville. Et Donald Westlake. Qui fait après, qui adapte le bouquin qu'ils ont écrit tous les deux en scénario, tout seul. Donc, ça donne Le Beau-père. Et c'est fascinant parce que Donald Westlake, si on fait le lien avec, par exemple, Le Couperet, on voit plein de similitudes. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui tue pour continuer à se conformer aux dictats de la société qu'on lui impose, en fait. Dans Le Couperet, c'est parce qu'il ne veut pas être déclassé, il veut rester un cadre sup avec un emploi, tout ça. Donc il élimine tous ses concurrents. Ça a d'ailleurs été très bien adapté et européanisé par Costa Gavras. Et là, c'est différent. Lui, ce qu'il veut, c'est une famille idéale. Il fantasme une famille idéale. Et en fait, si sa famille fonctionne, il tue personne, hein. C'est vraiment quand la famille dysfonctionne qu'il devient un tueur. Et du coup, c'est vachement intéressant, il y a plein de corrélations entre différents bouquins de Westlake qui se retrouvent là-dedans. Du coup, ça va vachement intéresser. Et puis après, derrière, on a une série B très efficace. Pas spécialement un film d'horreur, mais un thriller. Un thriller d'horreur quand même, parce qu'il y a un thriller mental, ouais, puis un thriller psychologique, mais vraiment aussi, s'il y a des scènes assez horribles quand même au début, avec le massacre de la famille, le sang partout, tout ça, bon, ça rigole pas quand même, mais le film privilégie plutôt le hors-champ, enfin, n'est pas très démonstratif, même si par moments ça saigne pas mal, et je mets ça à la hausse, en fait, parce que c'est plutôt un bon film, on passe un bon moment.
Comme tu le dis, tout se joue à l'instruction où on a finalement cet homme couvert de sang devant sa classe, barbe ébouriffée, cheveux ébouriffés. On sait qu'il s'est passé un truc, on ne sait pas encore ce que c'est. Il commence à faire sa petite toilette et c'est au moment où il descend finalement de la salle de bain qui est à l'étage qu'on se rend compte qu'il n'a pas juste tué quelqu'un, qu'il a provoqué littéralement un massacre en éliminant toute sa famille. Et il part tranquillement, un peu comme s'il partait au job le matin, ce qui est assez... ce qui nous inquiète un peu pour la suite, parce qu'on comprend que c'est un personnage assez trouble. Et ce qui est intéressant, c'est que, notamment par rapport au titre du film, c'est que le beau-père fait référence finalement à deux personnages dans le premier film, c'est-à-dire le beau-père en lui-même, héros sanglant malgré lui, qui est en quête de la famille parfaite, et Stéphanie qui, en fait, en étant la fille, devient automatiquement... tu as le statut de... Le fait que ce soit la fille de la mère, tu as forcément le statut de beau-père qui apparaît. Sinon, ce serait juste une veuve qui se remarie. Et Stéphanie, elle, qui a perdu son père et essaye de se mettre, justement, essaye de finalement sortir de ce deuil, se retrouve confrontée à ce beau-père avec qui, comme tu l'as dit, elle a immédiatement un problème. Donc finalement, le film suit une double quête. Celle de beau-père qui est en quête de la famille parfaite et celle de Stéphanie qui est en quête... qui enquête pour faire le deuil de son père, qu'elle trouve finalement dans un autre personnage qui est le psychologue. Mais vu de la manière dont le film se déroule, j'aime beaucoup le sens qui est donné à la toute fin. Et c'est un film en fait, qui est sorti bien avant, mais qui m'a fait beaucoup penser au film Le Dentiste. Le Dentiste qui enquête de cette blancheur absolue qui ferait pendre partout et aller contre cette saleté d'environnement. Et ce beau-père qui enquête de la famille parfaite, de la perfection, finalement qui ne fait pas tâche dans le décor. Et je trouve que le rapport avec le dentiste va encore plus loin, vu que le dentiste 2 et le beau-père 2 ont ce scénario assez en parallèle. On retrouve ce côté personne échappée de l'endroit où il était enfermé, qui finalement s'installe dans une petite ville et commence à reprendre son activité de base. Et ce qui est intéressant avec le beau-père 2, c'est que certes, dans le dentiste 2, le dentiste reprend juste sa profession de dentiste, mais dans le beau-père 2, le beau-père choisit cette fois d'avoir le rôle de psychiatre, enfin de psychologue, ce que finalement on a en tant que personnage qui aurait pu faire un excellent beau-père dans le premier film. Et c'est un rapport très intriguant et que je trouve personnellement intéressant. Il y a une petite étincelle derrière.
Where do your thoughts take you?
Phil left a little over a year ago. He's zeroing in on you, and he's ignoring everybody else. Dr. Gene Clifford, this is...
Phil. Phil Graylin, Carol's husband.
Why is he here?
Oh, he wants a second chance.
Why don't you ask Phil to stop by and have a chat with me tonight?
I think it's time I cracked open this bottle.
Carol, what exactly do you know about Gene?
That I love him.
Make room for Daddy.
How do I know he won't come back again?
I don't think he'll come back this time.
We're pouring our hearts out of some guy who no one knows diddly about.
Come on, Maddie.
You don't even know if he's a real shrimp.
You're nothing!
Who the hell are you?
Would you let me tell her?
What are you going to tell her? More lies?
Carol, I have a confession to make.
She's agreed to become my wife.
You will never find a better family man than me.
Don't tell your dress, sweetheart!
I think we can work this out.
Terry O'Quinn and Meg Foster.
There's something that you should know about my past.
Stepfather 2. Daddy is back.
Peut-être le problème du beau-père 2, peut-être, parce que ça reste un film... Il est quasiment aussi bien que le premier. Mais c'est de ne pas avoir un personnage aussi fort que celui de Stéphanie. Parce que le personnage, cette adolescente, c'est un personnage vraiment, il est bien écrit. C'est un personnage, bon, on sent qu'il y a Westlake derrière et tout. Ils ne sont pas derrière le 2, hein, de toute façon. Hein. Donc le 2 bascule dans la série B horrifique, très sympathique. Moi, j'adore ça. Mais je veux dire, il n'y a pas la subtilité des rapports humains qu'il y avait dans le premier. Et il y a Stéphanie qui est vraiment cette adolescente qui est un personnage très intéressant parce que... sa réaction est normale. Enfin, je veux dire, sa mère ramène un nouveau copain, voilà. Et donc, elle a pas envie. Elle a perdu son père. Elle a pas envie qu'il soit son père. D'ailleurs, à un moment, elle dit bien, son seul ami, c'est son psychiatre. Et puis, en plus, à l'école, elle fout un bordel monstre. Elle fait tout pour se faire virer de l'école, alors que c'est une bonne élève. Mais elle est travaillée par tout ça. Elle est pas bien dans sa tête. Elle est pas bien dans sa peau, ce qui est normal quand on perd son géniteur et qu'on est une adolescente, quoi. C'est compliqué à tout âge, mais quand on est en train de se construire, c'est encore pire, puisque c'est pas vraiment dans l'ordre des choses de perdre son père avant d'être majeur et vacciné, comme on dit, comme le veut l'expression consacrée.
Ouais, c'est un personnage très très fort, et c'est ça qui est vraiment agréable dans le premier film, c'est ce personnage féminin jeune, mais qui finalement a une aura tout aussi importante que le père dont on connaît la menace et qui a été développé. C'est vraiment une grande force du film, pas ce face-à-face, mais avoir ces deux personnages équilibrés dans la balance.
Ah, puis surtout que Stéphanie, on ne va pas dévoiler le film, elle assiste à quelque chose auquel elle ne devrait pas assister. En allant chercher un bac de glace dans le congélo, voilà, elle voit quelque chose qu'elle ne devrait pas voir. Et du coup, elle perce à jour la personnalité de ce beau-père. Et alors... Il y a un personnage qui le remplace un peu parce que le beau-père 2 démarre, on est en pleine série B horrifique. D'ailleurs, on a Jeff Burr qui est un peu un réalisateur un peu spécialiste des suites, qui est un réalisateur un peu mésestimé à mon avis parce que d'un point de vue formel, c'est un bon formaliste, je trouve Jeff Burr. Et il y a toujours une photo intéressante dans ses films. C'est l'homme derrière Massacre à la tronçonneuse 3, Nuit sanglante, La nuit de l'épouvantail, Puppet Master 4 et 5, par exemple. Donc c'est un réalisateur qu'on n'a pas beaucoup laissé s'exprimer, mais les quelques scènes, parce qu'on le sait, pour le Massacre à la tronçonneuse 3, par exemple, enfin, son film a été massacré, remonté. Alors lui, après, il a ressorti un director's cut et tout. Mais bon, il a beaucoup souffert, en fait, des producteurs qui n'ont jamais vraiment beaucoup respecté son travail. Bon, après, aux États-Unis, c'est compliqué, hein, de toute façon, d'avoir la maîtrise de ses films. Hein, ça, c'est une réalité. Jeff Burr, là, il fait peut-être, avec ce film-là, son meilleur film. Et j'aime beaucoup le début, qui fait très film expressionniste allemand. Qui fait très, en gros, cet asile ressemble beaucoup au cabinet du docteur Caligari, quoi. Il choisit des angles biscornus, les gens sont filmés en contre-plongée, et puis il y a ce psychologue qui vient en prison et qui c'est hilarant, quoi, parce que bon, on devine tout à l'avance dans le film, mais c'est assez hilarant parce que il y a effectivement l'idée que le psychopathe est en train de guérir, et au moment où il écrit fait de nets progrès, l'autre il le tue, quoi, et puis il arrive à s'évader en piquant la veste d'un gardien qu'il a tué aussi au préalable, voilà. Et le film est un peu plus gore d'ailleurs, hein, il y va plus franco. Et l'acteur est toujours aussi excellent, Terry O'Quinn. Et il va se trouver une femme. Alors là, c'est pareil, c'est une actrice intéressante qu'on a revue, comment dire, récemment, dans un film de Rob Zombie, hein, The Lords of Salem. C'est Meg Foster. Alors Meg Foster, qui est une actrice comme ça, un peu sèche, un physique un peu sec, avec des yeux bleus translucides, qui est une actrice intéressante, beaucoup moins effacée que l'actrice qui joue la mère dans le premier film, qui est quand même très effacée, hein. Qui est très victime. Là, elle se pose des questions tout le long. Elle est beaucoup plus, circonspecte sur quand même l'identité de ce monsieur, sur ce beau-père, qui joue au psychologue sans en être vraiment un. Et puis, il y a un fils, mais qui est un personnage, en fin de compte, assez effacé. Mais par contre, qui a l'idée d'une bonne idée de scénario, puisque c'est en gros grâce à une chanson que l'on sifflote, qu'il a appris à ce gamin, qui se fait gauler, quoi, quelque part. Le final est assez jouissif, quand même, dans ce qui renverse de l'image classique des sacro-saintes du mariage, des Américains, et tout ça, des certaines valeurs traditionnelles. Le final est assez jouissif, parce que c'est des films assez drôles, hein. On ne le précise pas, mais il y a quand même pas mal d'humour dans ces deux films. Et le personnage de Stéphanie, là, il est remplacé un peu par un personnage de postière, de factrice. Alors c'est la caricature de la factrice telle qu'on l'a elle cumule tous les lieux communs, voilà, dans l'imaginaire. La factrice, on l'imagine bien comme ça, c'est-à-dire qu'elle est jeune et jolie mais célibataire, on imagine bien qu'elle enchaîne tous les mecs du coin, parce qu'à un moment ça revient pas mal dans la conversation. Elle est sérieusement alcoolique. Ça, c'est clair. C'est une postière qui picole pas mal. Voilà. Elle se permet d'ouvrir les lettres de certains de ses usagers parce que la correspondance l'intéresse. Et puis, bah, évidemment, elle arrive à percer à jour la personnalité du beau-père. Elle remplace là, un peu le personnage de Stéphanie dans le premier film. Et ma foi, ça donne un film qui, s'il est moins abouti parce qu'il répète un peu les recettes du premier, est vraiment efficace. Et je le répète, le final est quand même assez jouissif. Je trouve que c'est une chouette série. Les deux films ensemble vont très bien ensemble. Et voilà, c'est très bien. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picarène, The Last But Not The List, et je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.